I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le fait de devenir maman a été, je crois, l'un des premiers rôles, vrais rôles de ma vie qui s'est vraiment affirmé, où il n'y avait que moi qui pouvais le maîtriser et où je ne cherchais pas plus. Alors évidemment, tu es toujours en remise en question, comment je peux être une meilleure mère, plus patiente, plus dans la bienveillance et tout ça. Peut-être que c'est le fait d'être en Australie toute seule, sans famille, sans amis, et à me retrouver toute seule avec pour Adam, pour le premier, toute seule en tête à tête avec ce bébé, Guillaume qui va travailler tous les jours, et puis moi qui dois apprendre. Je crois que ça a été le vrai premier rôle de ma vie.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
C'est cool de faire ça comme ça, en mode canapé.
Oui. c'est mon secret.
Qui c'est qui s'est assis sur ce canapé? Parce que t'en interviews pas mal.
Plein de gens. Hein.
Ouais. T'en interviews pas mal.
Quasiment l'intégralité des gens que j'invite.
Bien souvent, c'est en direct, c'est comme ici, en ouais. Face. Trop bien.
Oui. C'est quand même vachement mieux. Élodie, donc. Je suis très heureux de t'avoir à mon micro.
Je suis très heureuse d'être ici, c'est très chouette.
T'es la première daronne que j'interviewe après un daron que j'avais interviewé. Donc tu es la femme de Guillaume qui est alors pour les gens qui écoutent Histoire de Daron, vous êtes parti en road trip autour de l'Australie pendant un an et quelques.
Ouais, c'est ça, fin 2020 jusqu'à fin d'année dernière.
Et là aujourd'hui, vous faites un road trip en France.
Bah oui, regarde, on est chez toi.
C'est fou, quoi. Et tu es donc, ouais, effectivement, je te disais, la première, et je suis très heureux de pouvoir faire ça aussi, t'es la première daronne d'un daron, pas du tout, ouais. Mais en gros, t'es la première compagne
d'un des darons d'Histoire de Daron.
Et je suis très heureux parce que ça a aussi parfois me permettre de pouvoir, pas comparer les histoires, mais de pouvoir apporter un autre point de vue aussi à l'histoire. Je trouve ça trop, trop cool de pouvoir faire ça.
Confronter la vie entre le mari et la femme.
Ouais, ou tu vois, d'apporter un point de vue complémentaire, ouais. De pouvoir éventuellement...
Une autre vision des choses.
C'est un peu, tu vois, j'ai un peu l'impression d'être texte dans les amours. Je sais pas si t'as la reste, parce que t'es parti depuis très longtemps.
Je me vois bien.
Tu vois, ou ça va peut-être que ce podcast va créer des problèmes dans votre couple, quoi, tu vois.
Ou pas, non.
Espérons pas, c'est pas mon objectif en tout cas, tu vois, mais de juste « Ah, moi je pense jaune !»« Eh ben moi je pensais bleu !»« Comment ça ? Tu pensais bleu ? C'est honteux !» Bon, bref.
Et puis Guillaume ne voit pas les couleurs, donc du coup... C'est donc, du coup, en général, on n'est jamais d'accord sur la couleur des choses.
Mais... Ah bah oui, ouais. Il est vraiment daltonien.
Léger, mais okay. C'est vrai que le vert, le bleu, le jaune, le orange, c'est toujours une grande histoire chez nous.
Qu'est-ce que ça t'a fait d'écouter les épisodes de Guillaume ? On a fait deux épisodes avec Guillaume dans Histoire de Daron, extérieurement.
C'est très rigolo comme question parce que le deuxième podcast m'a beaucoup moins surpris que le premier. Parce que le deuxième podcast était un an après notre départ. Et le deuxième podcast, je l'ai écouté comme « Ok, bah en fait, j'ai déjà entendu ce qu'il dit. » Et parce que Bah, c'est bien le Guillaume que je connais et avec qui bah, je vis au quotidien dans mes 9 mètres carrés. Le premier podcast, donc ça remonte parce que c'était il y a un an et demi.
C'était en décembre 2020, je crois, novembre,
ouais,
décembre.
Donc au tout début de notre voyage. Et ça avait été intéressant de voir, d'écouter son point de vue puisqu'il avait abordé plusieurs sujets, dont la paternité, la naissance des enfants, la manière dont il est devenu père, la manière dont lui, il a grandi vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de moi. Et c'était intéressant d'avoir ce point de vue. Et c'est vrai qu'on en revient toujours autant, mais on prend le temps de rien, des fois, dans ce monde où on court surtout. Et le fait de discuter dans le couple et vraiment de pouvoir se poser et de connaître l'autre, d'écouter l'autre, de savoir ce qu'il pense... Voilà, c'est du coup le premier podcast a été une révélation sur ça en disant waouh, mais il y a encore ça faisait à l'époque 12 ans, 13 ans qu'on était ensemble, mais attends, il y a des choses
je connais pas,
que hein. Je connais pas, ouais. ton point de vue, la manière traumatisante, enfin sans que ce soit un trauma, mais qu'il a vécu la naissance vraiment des enfants, les premières années et tout ça, ouais, c'était intéressant. Et je mets un point d'honneur aujourd'hui à, c'est pas simple tous les jours, mais à vraiment communiquer.
Et t'as la sensation qu'un an plus tard, dans le deuxième épisode, vous étiez rapprochés à ce point où, de ce fait-là, bah, le temps que vous avez passé ensemble pendant cette année-là a fait que, potentiellement, la deuxième interview était plus fluide pour toi.
Plus fluide pour moi, parce que bah, on a le temps dans le sens où on est ensemble, mais aussi on a le temps de se poser, de discuter, on fait des heures de route à refaire le monde, tous les deux dans la voiture, où on a des vrais moments où on est juste posé et à observer ce qui se passe autour de nous. Donc du coup, ça permet une introspection sur soi-même, chacun de notre côté. Et cette année qui vient de s'écouler permet vraiment l'échange. Et je pense que c'est la clé pour réussir ce mode de vie. C'est pas donné à tout le monde de vivre dans 9 mètres carrés en mode nomade. Chaque jour, on sait pas où on dort le soir même. Mais
Guillaume racontait que vous aviez croisé des couples qui se sont déchirés en fait pendant le voyage. Quoi.
Je pense que c'est comme toute expérience dans la vie. Nous, ça va être la vie nomade. Je suis sûre qu'on pourrait trouver d'autres exemples où d'un seul coup, tu te retrouves en tête à tête avec. Je pense qu'il y a des couples qui sont déchirés pendant les confinements aussi, se retrouver en tête à tête avec notre moitié. D'un seul coup, tu réalises que bah, les moitiés, elles ne s'envoient plus très bien et qu'on n'est plus très si complémentaires que ça. Je ne cache pas que la période du voyage, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, parce que bah, y a des clashs par moment. Il y a du mal-être ou il y a du questionnement, il y a des engueulades. Puis j'ai plus de porte à claquer quand je me dispute. Alors, du coup, avant, je claquais la porte de la chambre. Maintenant, il n'y a plus de porte dans la caravane.
Oui, donc, tu ne peux pas t'échapper.
Non, tu ne peux pas t'échapper, sauf partir et marcher. Et voilà, mais donc, tu es obligé de confronter le truc. Et puis, dans 9 mètres carrés, tu ne peux pas te faire la gueule. Ce n'est pas possible de se faire la gueule sur plusieurs jours. Il faut désamorcer le truc, et sinon, c'est invivable. Donc, ça aide beaucoup. Et je pense que ça nous aidera dans une prochaine vie, puisqu'on... On n'est pas prêt pour la sédentarité aujourd'hui, mais on a des projets de sédentarité plus tard. Et ça nous aidera certainement. Enfin, toutes ces années de vie nomade nous aideront à la prochaine vie.
Donc, pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode avec Guillaume, je vous invite peut-être à aller le réécouter parce qu'effectivement, j'ai pas envie de replanter l'intégralité du décor, etc., qu'on a fait avec Guillaume pendant longtemps. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode si on peut faire ça sur les podcasts et tout, comme ça, vous pouvez aller écouter. J'aimerais me concentrer un peu plus sur ton histoire à toi en tant que maman et peut-être commencer par m'expliquer ce qui, toi, t'as donné envie de devenir maman, quoi.
Je me suis jamais posé la question. Ça a toujours été naturel pour moi, je serais maman.
C'est... Comme ça.
Oui, c'est vrai que maintenant, avec le recul, quand j'en discute avec des copines ou des femmes que je rencontre, certaines, très tôt, ont pris la décision de pas avoir d'enfant ou penser ne jamais avoir d'enfant. Puis un jour, la maternité, elle est tombée. Alors que j'ai jamais été très gaga des enfants des autres pendant mon adolescence ou la vingtaine. J'ai fait du babysitting. C'était plus pour le billet à la fin de la soirée que pour l'enfant en lui-même. Mais j'ai jamais remis en question le fait que oui, un jour j'aurai mes enfants. Donc c'est arrivé très naturellement et assez vite dans notre histoire de couple.
Ok, aujourd'hui vous avez deux fistons.
C'est ça.
Qui ont 10 et 7 ans. Donc on va reparler aussi de ce que c'est que d'éduquer deux fistons en 2022, c'est intéressant. L'une des caractéristiques, je sais pas en fait, est-ce que tu voudrais me parler de est-ce que tu te souviens plus spécifiquement du moment où t'es tombée enceinte?
Je m'en souviens pour une raison très très nette, c'est que ma première grossesse a terminé en fausse couche. Donc Guillaume et moi, on est ensemble depuis, je dirais, 2 ans et demi, 3 ans, donc début de notre histoire. On habite sur Paris à l'époque, on prend la décision ensemble, un petit peu soudainement, allez, on est prêt, et si on faisait un bébé.
Okay.
Et entre-temps, on est parti en vacances en Australie, donc ça fait partie ça de notre histoire.
De l'histoire.
On est parti en février 2011, 5 ou 6 semaines en vacances en Australie, pour le côté se relaxer, prendre le temps et décider de ce qu'on allait faire de nos vies parisiens, entrepreneurs, futurs jeunes parents. Enfin, on avait plein de choses à remettre en question. Et je suis revenue de ce séjour australien enceinte. Et je suis tombée enceinte très vite et je m'y attendais pas du tout. Et ça a été comme une révélation pour moi. Sauf que malheureusement, la grossesse s'est terminée très vite. Parce que le temps que j'apprenne que j'étais enceinte, je crois que je l'étais quasiment plus déjà. Et quelques semaines après, j'apprends que je fais une fausse couche.
Comment ça a été une révélation pour toi?
Parce que à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'avais perdu ce bébé qui n'était pas encore un bébé, je n'avais plus que ça en tête. C'était devenu mon projet numéro un, c'était tomber enceinte. Autant on a pris la décision et je m'attendais à mettre des mois à tomber enceinte et ça arrivera quand ça arrivera, autant cette grossesse qui n'a jamais duré, a été le point déclencheur de dire mais c'est ça que je veux, c'est mon nouvel objectif, il y a plus que ça qui compte. Ça a été émotionnellement assez dur, comme toute fausse couche, parce que s'ensuit les mois où tous les mois t'attends d'être enceinte et tous les mois t'as tes règles qui arrivent et tu pleures tous les mois parce que c'est pas le moment. C'est marrant parce que c'est la première fois que je crois que je parle de cette fausse couche. Elle fait partie de ma maternité. Alors que d'habitude, on mise sur les enfants.
Ouais.
Et je me rends compte là, spontanément, qu'elle est là. Et du coup, je suis tombée enceinte d'Adam quelques mois plus tard, au moment où j'ai décidé d'arrêter de planifier, d'arrêter de calculer, d'arrêter de penser à ça. Et finalement,
j'ai l'impression que c'est un vrai truc. Hein. C'est souvent...
c'est incroyable.
J'ai beaucoup d'histoires de femmes, pas forcément pour tout le monde, mais j'ai un peu l'impression que c'est à partir du moment où tu décides d'un peu de lâcher prise et de dire bon, ok, ça viendra quand ça viendra, que généralement ça tombe, quoi. Ça tombe.
ça arrive. Et c'est très rigolo parce qu'on avait tellement lâché prise, donc courant été 2011, donc sur le mois de juillet, on part chez des amis faire un mariage dans le sud de la France et on s'arrête dans une station essence dans un petit village du sud de la France, je ne saurais plus dire où, et on est accueilli par une mamie pour payer l'essence et une mamie du sud de la France, tu sais, avec la peau tannée, du soleil, et je ne sais pas quel âge pouvait avoir cette dame, mais elle était très très fatiguée. Et je paye et elle me félicite pour la grossesse. Elle me dit félicitations pour votre grossesse. Je remonte dans la voiture contrariée. Je dis mais elle est nulle. Bah quoi, elle vient me féliciter pour une grossesse. Ça va, j'ai pris un peu de poids, mais quand même. Et en fait, j'étais enceinte.
What?
Ouais, c'est rigolo. Cette dame, je l'ai aperçue 3 minutes dans ma vie et ça fait 10 ans et j'en parle encore. Cette dame m'a dit que j'étais enceinte et comme s'il y avait quelque chose qui se dégageait ou qu'elle avait ressenti ou je sais pas qui était cette dame. Mais et quelques jours après, ça m'a mis la puce à l'oreille. Effectivement, j'étais bien enceinte d'Adam.
Oh, c'est comme une histoire folle. Comment se passe cette grossesse?
Cette grossesse, elle se passe très bien. J'ai vécu une belle grossesse, mais surtout, on déménage entre-temps.
Oui, c'est vrai.
Donc, on habite Paris quand je tombe enceinte. On habite Bruxelles, pardon. On a déjà déménagé de Paris en début d'année. On habite Bruxelles et on a eu une opportunité de travail. Enfin, Guillaume a eu une opportunité de travail en Australie pendant nos vacances. Donc, on a accepté et on est en pleine procédure de visa qui met du temps et qui va prendre plusieurs mois. Donc, quand j'apprends que je suis enceinte, je sais qu'on est déjà pour parler en pleine organisation de déménager en Australie quelques mois plus tard. Ça nous a obligés à pas le dire tout de suite. On avait peur de déstabiliser nos familles en leur annonçant cette grossesse alors qu'on leur avait annoncé un potentiel déménagement en Australie. On a attendu 3 mois et demi, 4 mois, que les choses soient sûres et de dire, bah voilà, le visa australien, il est arrivé, on part en Australie, on a la date de départ qui était au 27 octobre 2011, et quelques jours après, ah, au fait, je suis enceinte. Donc,
vous n'avez pas tout annoncé en même temps.
Non, il s'est passé dans mon souvenir quelques jours ou une semaine ou deux de différence. Et c'était un choc pour la famille. Évidemment, très heureux d'apprendre cette première grossesse. Premier petit-fils. Enfin, c'est vraiment, c'était le premier de tous les côtés. Et je me souviens d'une réflexion de ma mère en disant, bon, bah, c'est bon, vous partez plus en Australie. Eh ben si, on part quand même en Australie. Donc voilà, on a déménagé en Australie. J'étais enceinte de 4 mois et demi, presque 5. Et on est arrivé, on a tout quitté donc en France pour arriver avec 2 valises en Australie pour commencer une nouvelle vie et enceinte de 5 mois. Donc c'est une grossesse voilà, qui était assez...
Comment tu vis, toi, parce que bon, on en avait parlé, Guillaume, hein, qui avait raconté justement ce truc, lui, mais de son point de vue de père. Comment, toi, t'as vécu cette grossesse, justement, en 2 temps, et l'idée de te dire, OK, je vais aller accoucher dans un autre pays, alors que tu connaissais un peu parce que vous aviez passé quelques semaines là-bas, mais ça reste quand même, c'est à l'autre bout du monde, quoi.
Bah, je me rends compte aujourd'hui, avec le recul, je me suis jamais posé la question. Okay. Et je pense que c'est comme beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie, depuis ces 15 dernières années qu'on est ensemble, c'est qu'on se pose pas la question, on a envie de quelque chose, on fonce. Les choses arrivent après. C'est que on avait rien anticipé. Je suis arrivée enceinte avec Guillaume qui avait un travail, en pensant que tout se passerait comme on l'imaginait ou comme on l'imaginait ici en France, avec une sécurité sociale et tout ça. Et en fait, une fois arrivé là-bas, on se rend compte que maintenant, la sécurité sociale, on n'y a pas droit parce que on avait un visa qui ne nous l'accordait pas. Donc, on peut payer une assurance privée et avoir accès à une assurance santé, sauf que l'assurance santé couvre la grossesse et l'accouchement après 1 an de cotisation. Donc, on n'y était clairement pas. Et en voilà, quelques semaines de rendez-vous, un jour, on se pose, on se dit... Bon, et ben en fait, nous ne sommes pas couverts par rien du tout. La seule chose qu'on avait pu avoir à l'époque, c'était la CFE, donc c'était la Caisse des Français à l'étranger, qu'on payait en France, qu'on payait une fortune et qui nous remboursait les frais médicaux australiens sur la base des tarifs français. Alors c'était hyper intéressant parce que un généraliste qu'on payait 80 ou 100 dollars, donc l'équivalent de 60 euros ou 80 euros en Australie, il nous remboursait sur la base de 16 euros ici en France. Mais ça nous a permis d'avoir une toute petite couverture.
Mais de cette là, vous avez payé plein pot.
On a payé plein pot la grossesse et l'accouchement d'Adam, la naissance d'Adam.
Est-ce que vous avez fait un calcul de combien ça vous a coûté?
Ça nous a coûté à peu près 15 000 dollars. Donc, on doit être à 10-12 000 euros à l'époque avec le taux de change. Quelque chose comme ça.
Et il y a 10 ans.
Maintenant, ça reste pour la petite blague, mais à l'époque, on l'appelait notre Harley Davidson. Parce qu'on est en motard tous les deux. On était partis en Australie avec de l'argent de côté, évidemment, en ayant tout vendu ici. On était partis avec un petit peu d'argent de côté.
Vous vouliez vous acheter une Harley ?
On voulait s'acheter une Harley pour l'Australie. Et en fait, bah non, on a eu Adam.
Mais c'est ouf aussi parce que je trouve que c'est pas la première fois que j'entends une expérience comme ça d'accouchement à l'étranger qui coûte entre 10 et 15 000 euros généralement. Moi, j'ai vraiment ce souvenir de, après le premier accouchement de ma femme, je suis allé à l'entrée de l'hôpital en disant combien je vous dois. Et en fait, la meuf s'était marrée. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, vous venez de mettre notre enfant au monde, quoi. C'est pas possible que ce soit gratos. Et la meuf avait dit, mais si, on est en France, vous savez, c'est la sécu. Je me suis dit, alors, mais c'est pas possible. Ok, la sécu existe, mais à ce point-là, 0 euros, c'est ouf. Mais je trouve que ça serait cool aussi, tu vois, qu'on le sache un peu plus en France de combien ça coûte en vrai?
Eh ben à l'époque je m'étais renseignée parce que du coup je trouvais ces tarifs exorbitants parce que on avait dû trouver un généraliste. Alors en plus on pouvait pas passer en public et en hôpital public en Australie parce que sans couverture sociale c'était pas possible. Donc il fallait passer en privé, donc avec un obstétricien, mais du coup un obstétricien que tu choisis, que tu payes à la consultation une fortune. Et Guillaume à l'époque avait sorti un tableau Excel pour comparer tous les obstétriciens de la ville, et parce que j'étais enceinte de 5 mois et personne voulait nous faire un prorata sur c'était un
ah oui.
c'était un un management fee, donc un prix qui couvrait toute la grossesse. Et Guillaume était non, mais quand même, elle est enceinte de 5 mois, donc il n'y a plus 9 mois de grossesse. Et on a pris l'obstétricien qui nous a accordé un prix, enfin, un rabais au prorata. Et tout était calculé parce qu'évidemment, la péridurale, elle avait un chiffre, c'était 800 dollars, je crois. Je me souviens, Guillaume qui me dit, oh, bah, péridurale, je l'avais fusillé du regard. Ok, péridurale.
On peut s'en passer hein, quand ça coûte 500 ou 800 balles, t'es là.
Et tout me paraissait hors de prix et j'avais eu cette conversation, je crois que c'était avec une dame au téléphone de la CFE et qui avait rigolé et qui m'avait dit, vous savez, en France, les gens se rendent pas compte du prix, mais un accouchement en France, on est autour de 6 000, 8 000 euros par maman. Donc c'est quasiment l'équivalent à quelque chose près. Pour répondre
toujours
à ta question.
Toujours un peu ce truc, on devrait nous filer quand même une facture en disant en fait vous devez payer zéro balle, mais juste avoir conscience que en vrai ça coûte entre 6 000 et 8 000 euros, quoi, tu vois, que t'es un peu conscience de ce que c'est parfois d'habiter dans ce beau pays qui a certes des défauts, mais qui en a aussi, notamment la sécu sociale qui est complètement ouf, quoi. Comment se passe l'accouchement pour toi? On peut peut-être même parler de la fin de ta grossesse, parce que j'imagine que vous êtes en train de...
La grossesse, très bien. Okay. J'ai vraiment un bon souvenir. Je pense que j'étais vraiment dans une mood où, de toute façon, j'étais heureuse d'être en Australie, on allait avoir un bébé, on avait une nouvelle vie, enfin, tout ce qui était les inconvénients ou les petits couacs, ça passait à côté, tu vois. Donc la grossesse, très bien, mais l'accouchement, pas du tout préparé. Alors ça, je le savais pas encore à ce moment-là. Pas du tout préparé, hyper médicalisé, le fait de passer par un hôpital privé avec un obstétricien. En gros, l'obstétricien, c'était bon, ok, vous voulez accoucher à quel jour, à quelle heure? J'étais non.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Laisser le bébé le temps au temps. Oui, mais je pars en vacances dans 2 semaines. Donc, si vous voulez, ils sont assez friands, les Australiens, les Australiennes, de l'accouchement programmé.
Par césarienne,
voilà,
donc, c'est ça?
Par césarienne ou par déclenchement.
Par déclenchement. Ouais.
Mais voilà, pour respecter un calendrier qui arrange les parents ou arrange le médecin. Au final, je suis pas rentrée dans ce truc-là, mais arrivée à la fin de la grossesse, au premier signe, donc Adam est né vraiment à terme, même à quelques jours après le terme, au premier signe de contraction, je suis allée à l'hôpital et l'obstétricien m'a fait comprendre qu'il partait en vacances dans quelques jours, si je pouvais accoucher aujourd'hui, ça serait sympa, comme ça il serait là. Et il m'a déclenché et je me suis pas rendu compte des conséquences qu'allait être un déclenchement. Qui, en fait, aujourd'hui, avec le recul, c'est que le bébé était pas prêt à sortir. On m'a déclenché là parce que j'avais eu 3 contractions et que j'étais à terme. Mais là, alors, ça aurait pu être pire, mais entre le déclenchement et la naissance, il s'est passé 12 heures, quelque chose comme ça. Et puis, au moment de l'accouchement, le bébé était pas du tout en bonne position. Il arrivait par les reins. Donc, il avait la tête en bas, mais il était renversé, la tête de l'autre côté. Et puis, le bébé ne sortait pas du tout. Donc, je me souviens de la panique un petit peu du cœur du bébé qui commence à ralentir. Et ce que je vais raconter, je le sais par Guillaume, parce que moi, j'en ai pas de souvenir. Mais là, le médecin qui sort les forceps et qui va chercher le bébé par les grandes spatules. Et puis, j'avais eu la péridurale aussi, qui avait été ultra dosée. Tout ça pour dire que l'accouchement se passe, le bébé est là, un petit peu défiguré, blessé par les forceps, la tête un petit peu en poire. Et Et moi, je ne sens plus rien. Je ne sens plus mes jambes. La péridurale avait été très forte. Donc, je reste alitée pendant plusieurs jours. Donc, l'accouchement en lui-même, ça a été, c'est plutôt réaliser après coup que ça avait été peut-être un peu sauvage quand même et ça n'avait pas été très naturel.
Ok. Aujourd'hui, tu le vis en te disant, ok, c'était un peu...
Si j'avais pu faire les choses autrement, si j'avais été préparée autrement, dans ce côté un petit peu à la cool, on prend les choses comme elles viennent, j'aurais bien aimé être un petit peu mieux préparée à ce qui allait m'arriver, ce qui allait se passer dans mon corps, parce que c'est quand même pas rien de sortir un bébé de 3,5 kg. Et puis, ça m'a valu...
Je te crois sur parole, hein, tu sais, vraiment, je...
Ça m'a valu une déchirure, une épisio, et c'est les jours d'après qui ont été compliqués, de mettre 3 jours à ressortir du lit, à avoir des douleurs entre les jambes, mais pendant des jours à faire des bains froids, c'est vraiment très, très compliqué. Mais comme on dit souvent, on oublie tout ça par le bébé qui est là, qui est en bonne santé et qui va bien, et c'est ça le plus beau.
C'est fou quand même à quel point on a été déjeuner avec Guillaume là juste avant, et en fait on en parlait un petit peu pendant le déjeuner, à quel point en tout cas en tant que père, je me suis rendu compte à quel point on était des animaux et à quel point ma femme sur le moment était vraiment une sorte d'animal, quoi, tu vois, et qu'en fait fondamentalement on est des mammifères, où tu disais que t'avais tellement un shoot d'hormones, etc., que tu te souviens plus vraiment du moment où tu fais la connaissance d'Adam, là où j'ai l'impression que Guillaume, qui était effectivement moins peut-être shooté aux hormones, lui juste dans sa position de couillon de père à côté à faire.
À observer ce qui se passe.
Qu'est-il en train de se passer? Et a un peu plus de souvenirs et de recul, quoi.
On est des animaux, mais j'ai trouvé pour Adam, j'ai eu une expérience complètement différente 3 ans plus tard avec la naissance de Simon. Mais on est des animaux, les choses devraient être naturelles et arrivent naturellement. Il y a des réflexes qui sont naturels, mais on est quand même vachement instrumentalisé, médicalisé, encadré par des façons de faire qui sont de moins en moins naturelles. Alors qui certes sauvent des vies, qui sont là à des bons moments et qui aide certainement à ce que les choses se passent mieux dans beaucoup de cas, mais dans certains cas, c'est je trouve, moi, trop. Okay. On laisse plus la part. En tout cas, dans mon expérience à moi sur ce moment-là, on laisse moins la part au naturel.
T'as des souvenirs des premiers jours en compagnie d'Adam, etc.
La beauté de cette formule tout frais payé qu'on a payé, c'est que du coup on était en hôpital privé, on avait une chambre individuelle, j'avais une chambre individuelle avec un lit pour Guillaume, et on était 4 jours dans notre bulle, et 4 jours à profiter tous les deux, étant au bout du monde, on n'a pas eu cette cohue qui est arrivée à la maternité. Il y avait seulement mes parents qui étaient là, donc qui étaient à l'époque dans notre appartement, mais c'était les seules visites qu'on avait. Et on n'a eu aucune visite d'amis et tout ça, parce que c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup en Australie. On va pas visiter à la maternité. On laisse vraiment le temps à la maman. Donc j'ai un vrai bon souvenir des 4 premiers jours à devenir parents tous les deux, à se regarder, à observer notre vie qui avait changé et être encadré des sages-femmes qui étaient là pour nous apprendre les premiers gestes, parce qu'on savait pas, on maîtrisait rien. Donner un biberon, donner un bain, changer une couche, enfin tout était, c'était pas inné du tout les premiers jours. Donc c'est un beau souvenir d'être dans une bulle tous les trois pour ces premiers instants qui changent notre vie à jamais.
Ok, fast forward, vous décidez d'avoir un petit deuxième, c'est ça ?
3 ans plus tard.
Ans plus tard.
Enfin, ouais, 2 ans et demi, ouais.
Et tu me disais que justement, vous aviez une configuration un peu différente pour Simon,
oui, parce
c'est
qu'on
ça
avait la sécurité sociale. Donc du coup,
c'est vrai que de ce fait-là, vous aviez payé pendant un an.
Et puis entre-temps, Adam est né sous un visa de travail. Entre-temps, on a obtenu la résidence permanente. La résidence permanente donne accès à la sécurité sociale australienne. mon assurance privée me couvrait les frais annexes parce que j'avais payé, enfin je cotisais depuis plus d'un an, mais on avait accès à l'hôpital public. Et du coup, j'ai fait le choix d'aller en public, sans obstétricien, un suivi sage-femme, quelque chose de beaucoup moins médicalisé. Alors là, pour le coup, j'ai jamais baissé ma culotte de toute la grossesse, parce que tant que ça se passe bien, elles veulent rien voir, elles veulent pas vérifier. On fait une écho. Seulement une écho pendant la grossesse, et c'est tout. Et ça laisse vraiment la place, du coup, au naturel, et à vivre ses émotions, à vivre le changement du corps, à vivre le bébé qui grandit, avec des suivis yoga, sophrologie, méditation. Donc vraiment, vraiment très naturel.
Et
on a payé zéro.
Okay.
Ça compte aussi.
Mais de ce fait-là, tu disais que tu t'étais pas préparée pendant la première grossesse, c'est-à-dire que tu n'avais pas fait de préparation à l'accouchement ?
Ben non, j'en ai pas le souvenir. Je pense qu'on était arrivé tard en Australie. En France, j'avais l'impression que je ferais ça plus tard quand j'arrive en Australie. Puis une fois arrivée en Australie, j'étais déjà à 5 mois de grossesse. Donc le temps que tout se mette en place, au final, j'ai jamais fait de cours de préparation.
Ok, donc là c'était c'était la première préparation à l'accouchement finalement.
Ah bah oui, et puis de par mon expérience 3 ans avant, j'étais devenue plus mature, j'avais grandi dans ce rôle de maman pendant 3 ans, donc j'étais plus sûre de moi, je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas, donc j'ai eu un suivi d'accouchement ultra préparé, mais hyper naturel. Simon est né à 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines après terme. Donc il était vraiment et les sages-femmes me disaient ça va, vous allez bien. À la fin, j'y allais régulièrement les 2 dernières après terme, tu y vas quasiment tous les jours, je crois. Et me disaient vous êtes sûr, vous allez bien, vous voulez pas un déclenchement? Et j'étais là non, il sortira quand il sera prêt et c'est lui qui décidera.
Et toi, t'étais pas au bout de ta vie 15 jours après
le
terme?
Alors, je sais qu'il y a des femmes qui aiment pas la grossesse, ouais. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse et aussi bien dans mes baskets qu'enceinte. J'ai trouvé ça merveilleux. Et la grossesse de Simon, qui a été en plus très zen, très maîtrisée et tout ça, m'a apporté beaucoup de sérénité. Donc,
dans quel sens?
Eh ben, je me sentais beaucoup plus sereine et m'affirmer dans mon rôle féminin. Mon rôle de mère m'a fait grandir énormément ces premières années de maternité. Donc là, cette deuxième grossesse a été... j'en ai un excellent souvenir.
En quoi t'as la sensation que ce rôle de mère t'a fait grandir pendant ces 3 années?
Parce que je crois que on passe notre vie à se chercher. On passe notre vie à se questionner sur nous-mêmes et à savoir qui on est. Et puis, j'y ai pas échappé. Mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, à me chercher dans ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, les études que je voulais faire, le métier que je voulais faire, et toujours à essayer des choses, toujours l'impression à tester des trucs dans les relations. Et c'est le fait de devenir maman a été l'un des premiers rôles, vrais rôles de ma vie qui s'est vraiment affirmé, où il y avait que moi qui pouvais le maîtriser et où je cherchais pas plus. Alors évidemment, t'es toujours en remise en question, comment je peux être une meilleure mère, plus patiente, plus dans la bienveillance et tout ça. Mais c'est le fait de devenir maman, peut-être que c'est le fait d'être en Australie toute seule, sans famille, sans amis, et à me retrouver toute seule avec pour Adam, le premier, toute seule en tête à tête avec ce bébé, Guillaume qui va travailler tous les jours, et puis moi qui dois apprendre. Je crois que ça a été le vrai premier rôle de ma vie qui a vraiment pris forme de manière concrète, quoi.
Mais on est bien d'accord que tu étais par exemple entrepreneuse, tu racontais tout à l'heure à Paris, donc en fait tu avais aussi déjà... comment dire, mis une casquette.
Ouais. Mais des casquettes, j'en avais plusieurs, ouais. Mais j'ai toujours, toujours été dans la recherche de plus ou dans la recherche de mieux ou dans toujours essayer, tester, se comparer aux autres. C'est pas du tout le souvenir que j'ai dans mon rôle de maman. Mon rôle de maman, il s'est posé.
D'accord. C'est trop intéressant. Et t'as la sensation que... le fait d'attendre Simon, enfin, en tout cas, tu parlais de cette grossesse qui t'a amené en plus quelque chose, ça t'a effectivement amené un truc en plus?
Eh bien, les 3 premières années de vie avec Adam, donc mes 3 premières années de maman, ont vraiment positionné mon rôle de mère, et ça a permis de commencer à ouvrir quelque chose dans mon esprit de qui je suis, ce que je veux et tout ça. Et l'arrivée de Simon 3 ans plus tard, donc avec de la maturité en plus et une réflexion supplémentaire, la grossesse et la naissance de Simon ont tellement été magiques que j'ai eu vraiment une concrétisation de savoir qui j'étais et ce que j'aimais. Et ça a ouvert une période de ma vie droite dans mes bottes. C'est vraiment difficile à expliquer, mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, 35 ans et un peu plus... 35 ans et un peu plus, je suis...
Quel âge ?
36 et demi. Mais 35, c'est bien.
Mais non, c'est pas grave, t'as 36 et demi.
Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai jamais été aussi...
T'as peur de vieillir ?
Non, mais j'ai pas envie de compter les années non plus, tu vois.
Ah non, mais ok.
Si je compte de 5 en 5, c'est bien.
Non, mais je te pose cette question parce que je sais aussi qu'il y a un truc terrible quand on devient parent, c'est qu'on vit à travers nos enfants.
Ouais.
Tu vois, et c'est pour ça que je me permets de te poser la question, c'est pas indiscret, on en reparlera après
si tu veux, mais c'est intéressant parce que j'ai jamais eu peur de vieillir, sauf que mon grand vient de fêter 10 ans et là j'ai pris une claque.
Okay.
Pas pour moi, mais j'ai un gamin de 10 ans, quoi.
Ouais, on en reparlera, okay. Effectivement, pardon.
Donc du coup, oui, Simon, je sais plus ce que je disais.
Non,
donc,
tu disais qu'aujourd'hui, à 35 ans, il y a un truc très aligné en toi et que
très aligné,
que t'as du
moi,
mal à l'expliquer.
Voilà,
quoi.
Et je suis droite dans mes bottes. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je le dis de manière très honnête et très sincère. Je suis heureuse dans ma vie et je suis satisfaite de ma vie avec ses bons et ses mauvais côtés. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps et j'ai l'impression que ça m'a mis 35 ans, mais je suis persuadée que les premières miettes, les premiers cailloux ont été posés à la naissance d'Adam et à la naissance de Simon. Et j'ai eu mes deux garçons et mon rôle de mère m'a permis de m'épanouir dans mon rôle de femme, dans mon rôle d'épouse et dans mon rôle d'entrepreneur. Et voilà, les choses se sont enchaînées. Donc Simon a 7 ans. Donc les choses se sont enchaînées là, ces 6-7 dernières années. Et je reste persuadée que les premières pierres à l'édifice sont la naissance des garçons.
Comment se passe, c'est quoi les souvenirs que tu peux avoir des premières années de parentalité aux côtés de Guillaume ? Dans vos rôles respectifs, etc.
Ça n'a pas toujours été simple. Hein.
C'est pour ça que je te pose la question.
Ouais, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des moments merveilleux, l'impression de créer une vie incroyable parce qu'on est expatrié en Australie, on mène une vie au bout du monde, on est tout seul, on a besoin de personne. Mais il y a eu quelques claques quand même parce que dans cette recherche toujours de vouloir mieux faire ou de s'observer et de s'améliorer, c'est pas simple le couple qui devient parent et la maman qui se focalise sur le bébé parce que tu peux difficilement, je pense, faire autrement. Le papa qui cherche sa place, le papa qui a parfois moins de patience que la maman, ou la maman qui a l'impression d'être toujours parfaite et puis le jour où elle pète un plomb, t'as le mari qui la regarde du genre mais pourquoi tu pètes un plomb. Tous ces moments là parce qu'évidemment il y en a eu comme dans, j'imagine, tous les couples.
T'as un souvenir en particulier d'un moment où tu dis de complications qui a peut-être pu être un...
Oh oui, j'en ai quelques-uns. Guillaume qui part au travail toute la journée, moi qui suis à la maison avec Adam, qui a l'âge de 18 mois, 2 ans, tu vois, à l'époque des 2 ans, un peu ce qu'on appelle le terrible two, où on commence un petit peu à se chercher, ouais. Et puis être émotionnel et puis et moi je passe ma journée avec Adam, je travaille pas les premières années en Australie, donc je passe vraiment mes journées avec lui à vouloir être une mère parfaite, à vouloir être sur tous les fronts, à vouloir tout faire et des activités, des balades et la sieste à telle heure et tout ça. Et puis au milieu de ça, le bébé qui pleure, qui est pas content, qui te retourne tout. Et Guillaume qui rentre le soir du travail, du genre tout va bien, qui a qu'une envie, c'est de se poser, profiter de sa femme et de son fils. Et moi qui lui balance le bébé dans les bras en disant « je vais prendre l'air, je m'en vais avec les copines ». Mais pourquoi tu pars avec les copines ? Parce que j'ai passé la journée avec le bébé. Mais attends, t'es pas heureuse de passer la journée avec ton bébé ? Si, bien sûr, mais toi tu vas être heureux de passer la soirée avec. Et voilà, c'est des moments un petit peu de décalage comme ça qui sont inévitables et qui obligent le couple à vraiment s'observer, s'écouter, se respecter et faire attention à l'un et à l'autre pour pas mettre le couple en péril. Et je pense que c'est inévitable avec l'arrivée d'un enfant, ça te retourne un petit peu quand même ta vie.
Je crois qu'il faut le dire plus le plus clairement possible, en fait. C'est que c'est pour moi l'un des trucs les plus durs à vivre au sein d'un couple. C'est si vous n'êtes pas déjà solide l'un et l'autre pendant notamment les premiers mois avec la fatigue qui va avec, etc. Ça peut être vraiment très très compliqué, quoi. Et on en parlait un peu au resto, mais Guillaume disait qu'il avait plutôt tendance, lui, à ne pas communiquer. Il vient de là aussi, tu vois. Il vient d'un excusez-moi de le dire, mais juste d'une éducation à la con de mec, à la con. Il a beaucoup travaillé, si vous avez écouté l'épisode, le mec s'est ouvert depuis ces dernières années, mais j'imagine qu'il a fait un chemin aussi, lui, par rapport à ça. Comment tu l'as vécu, toi, en tant que compagne et que coparent?
Bah, je pense que c'était des années assez lourdes émotionnellement, parce que faut se trouver en tant que mère, en tant que nouvelle mère, se positionner en plus dans une société où on nous demande de nous positionner en tant que mère, en tant que femme, en tant que travailleuse. Donc il y a ça, faut gérer le bébé, être sûr que les premiers besoins soient acquis, soient respectés, que le bébé est tout ce dont il a besoin, l'aider à évoluer. Puis en plus, t'as l'émotion du mari en plus, l'émotion du mari dans son cocon à lui ou dans le relationnel avec toi. Oui, c'est assez lourd. Mais je pense que c'est... alors moi, qui suis très dans la communication, j'aurais tendance à dire, j'aurais bien aimé être au courant. J'aurais bien aimé que ma mère, ma grand-mère ou n'importe qui me fasse un cours sur la parentalité. Et Guillaume te dira, bon, non, vaut mieux pas savoir, parce que je suis pas sûre que tu fasses des enfants si t'en sais trop avant. Donc il faut vraiment trouver la balance, tu vois, entre les deux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir tout ça? Est-ce que c'est pas mieux de se prendre un petit peu la claque et puis de trouver des solutions soi-même, de trouver des solutions adaptées à nous-mêmes ou au couple, parce que finalement, si on avait trop anticipé, tu peux pas savoir comment exactement ça va se passer. On va t'apprendre un parcours et puis finalement, avec ton bébé, tu vas avoir un autre parcours. Tu te dis, ah merde, j'étais pas prêt à ça. Donc,
mais tu vois, au moins des bases de faut pas hésiter à se parler, faut pas hésiter à causer ensemble, etc. Pas de venir dire, ok, en fait, ton bébé, il va faire ses nuits à tel mois, etc. Et tout va bien se passer. Ça se passe jamais comme ça. Mais au moins d'avoir des bases, tu vois, de vous allez en chier, ça va être compliqué, va falloir parler.
Mais ça reste la plus belle aventure de notre vie aussi. Et je pense que il y a quelques années, je crois que c'est sur un de tes podcasts d'ailleurs. Ah non, c'était sur une chanson. Ah, tu vas voir la comparaison. C'était sur une chanson de Ben Mazoué.
Ah bah oui.
Ben Mazoué qui a une chanson sur les gens qui veulent pas être parents. Je sais plus exactement.
Oui. Il a fait une chanson dans son dernier album Paradis sur les child free.
C'est ça. Voilà. Et il y a quelques années, tu m'aurais dit pas avoir d'enfants, mais je les aurais montré du doigt et j'aurais jugé, tu vois, 10 ans en arrière. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là et ces gens qui n'ont pas eu besoin de la parentalité comme moi par exemple pour s'affirmer ou pour se trouver. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que la parentalité n'est pas pour tout le monde et l'expérience de parents, eh ben elle va être vécue de manière très différente selon les uns, selon les autres, selon la manière que tu as de gérer tes émotions, les difficultés, si tu es plus positif ou négatif, si tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide.
Oui, pardon.
Mais c'est vrai que la communication, et c'est quelque chose que je défends régulièrement sur les réseaux ou dans les podcasts, c'est que pour moi, qui suis une grande communicative et qui ai besoin de mettre un mot sur chaque émotion, la communication, c'est la base de tout. Et même Guillaume, qui n'était pas il y a 15 ans, aujourd'hui sera capable de dire que j'avais raison.
C'était moi qui avais raison depuis le départ. C'est pour ça en fait que tu veux communiquer. C'est juste ça. Pour que Guillaume finisse par te dire j'avais raison.
J'avais raison. Au moins j'avais raison sur ce point-là. J'ai pas toujours raison sur tout, mais sur ce point-là, il a fait ce travail lui de plus communiquer et c'est vrai que ça résout énormément de problèmes où ça résout le problème avant même qu'il arrive. C'est juste on communique et avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, la communication elle est primordiale.
On va en reparler, mais c'est sûr que tu vois, j'ai un peu l'impression, ça m'intéresse en fait que tu dises que tu t'es vraiment épanoui à travers la maternité, etc. C'est vraiment quelque chose que je comprends. Je me demande aussi à quel point, tu vois, il n'y a pas un moment donné où c'est il y a un truc de ok, en fait c'est le moment pour moi de d'éclore, que ce soit à travers la maternité ou à travers autre chose en fait pour les gens qui veulent pas d'enfants. Mais je crois que c'est aussi, enfin tu vois, je sais pas si c'est forcément réduit à la maternité ou si c'est réduit par rapport à un projet par exemple.
Bah, je pense que c'est surtout propre à chaque personne, suivant le parcours que t'as eu au passé ou le désir ou les envies que tu as pour l'avenir. Moi, je l'ai vécu personnellement, je l'ai vécu comme ça. Je me suis retrouvée dans la maternité ces dernières années, dans une maternité bienveillante. Alors, je crie des fois et je perds ma patience parfois.
Tu veux dire que tu es un être humain ?
C'est ça. Des fois, je dis merde, faillible. Laissez-moi tranquille.
Tu es faillible, Élodie, c'est ça. Dites donc.
Mais toute ma vie, ces dernières années, se construit. On a beaucoup de projets, on a eu beaucoup de projets professionnels.
On va en parler.
J'ai retrouvé ma place professionnellement, mais avec, dans un coin de ma tête, les enfants. Toujours trouver la place des enfants, toujours trouver cet équilibre familial. J'ai vraiment toujours recherché la balance. Alors, c'est un travail épuisant. Mais c'est un travail qui aujourd'hui j'en vois les résultats. Et on en reparlera, mais avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, la famille, elle est vraiment placée en numéro un. Donc tout est basé sur l'équilibre de chacun, le bien-être de mon bien-être, le bien-être de mon mari, le bien-être de chacun des enfants. Trouver cet équilibre.
Ça me fait plaisir que tu te sois mis en premier.
Mais c'est un travail de longue haleine, ça, de se replacer au centre de nos émotions. Mais je suis convaincue, les enfants vont grandir, et je suis convaincue, et j'ai déjà des idées de projet pour dans 5 ans ou dans 10 ans, voilà, quand j'aurai plus, moins les enfants à m'occuper. Mais la parentalité reste vraiment au cœur, la famille reste vraiment au cœur de chacun de mes projets, qu'ils soient professionnels ou autres.
Parce que, donc on en parlait, mais vous avez monté aussi une boîte ensemble avec Guillaume, vous avez travaillé ensemble. Donc en plus, vous avez... Alors aujourd'hui, vous vivez ensemble, on va en reparler, mais dans votre caravane de 9 mètres carrés. Mais vous aviez aussi décidé de monter votre boîte ensemble.
Ça, c'est quelque chose qui a été toujours évident pour nous. Un jour, on bossera ensemble.
Okay.
Avec Guillaume, depuis 15 ans, on fonctionne en rêve et en projet. Et on les réalise les uns après les autres. Et travailler ensemble était sur la liste depuis longtemps.
Comment ça s'est goupillé ?
Eh ben, j'ai toujours été entrepreneur en France, en Belgique, avant de partir en Australie. J'ai pas travaillé les premières années de maternité. Puis j'ai recréé un business en Australie où j'importais des produits pour enfants faits par des créatrices françaises que je revendais là-bas dans des boutiques australiennes. Donc moi, j'ai toujours été entrepreneur. Guillaume était employé depuis toujours et on est arrivé en Australie par un poste qu'il a obtenu. Et il est resté employé dans cette boîte de 2011 à fin 2015, début 2016. Et fin 2015, il est à la limite du burn-out. Limite. Dans le sens où il n'est pas heureux dans ce qu'il fait. Il a créé un business en parallèle avec son patron de l'époque où il s'éclate, mais il n'est pas reconnu par son patron. Et il doit se battre au quotidien pour obtenir des congés, pour obtenir un meilleur salaire.
C'est un meilleur salaire, oui.
Donc il a l'impression de se battre au quotidien avec son patron alors qu'il bosse super bien. Et fin 2015, je le vois vraiment au bord du gouffre quand on devait partir en France pour les vacances de Noël et que son patron, à la dernière minute, décide que non, tu peux pas prendre tes vacances pour Noël parce que moi, je prends mes vacances pour Noël. En gros, c'est ça.
Entre-temps, toi, t'avais monté ta boîte, enfin, t'avais remonté ton activité.
Moi, j'avais mon activité à moi et lui était employé. Et fin 2015, on a les deux enfants. Simon a à peu près 9 mois, donc ils ont 3 ans et demi et 9 mois. Et je lui dis, écoute, si tu adores ce que tu fais, le business que tu as monté au sein de ton entreprise et que ton patron s'en fout, pars avec le business. Il me dit non, je peux pas faire ça. Et je lui dis pourquoi tu peux pas faire ça. Il y a plein de gens bien qui sont entrepreneurs. Et puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, tant pis. On rebondira. Vraiment toujours cette voir le verre à moitié plein et dire il faut se mettre nous en premier et se poser les questions. Et ça a été 2 semaines de discussion autour des fêtes de Noël. Et puis, janvier 2016, voilà, il retourne au travail et il pose sa démission. Donc, ça a vraiment été un travail de ma part de lui dire qu'il pouvait le faire, qu'il en avait largement les capacités intellectuelles, que d'un point de vue organisation, on avait fait bien pire et que on y arriverait. Quand t'es arrivé en Australie, que t'as payé ton premier accouchement, tout te paraît après, financièrement en tout cas, te paraît dérisoire. Donc, il s'est lancé. Donc, début 2016, il est parti avec, avec cette entreprise qu'il avait créée depuis quelques mois et il s'est lancé à son compte.
Et vous avez commencé à bosser ensemble à ce moment-là, alors, c'est
ça? Au départ, on était en home office. Les enfants étaient crèche. Oui, tous les deux à la crèche. On était en home office. On avait deux bureaux côte à côte. Moi, je bossais sur mon business et lui, il bossait sur le sien. Et ça a duré quelques semaines seulement parce que son business a pris une telle ampleur assez vite qu'il avait souvent besoin de moi pour le côté marketing, communication, administratif. Et je me suis mis à bosser pour lui. Et au bout de 3 mois, je crois, on a tout fusionné et on a créé une holding, un groupe qui regroupait ces deux premières sociétés et certaines d'autres qu'on a créées ensemble après. Et en fait, on a tout fait en commun à partir de ce jour-là.
Vous avez une holding familiale, quoi.
C'est ça.
Vous êtes en train de monter un empire.
Oui, le Covid est passé par là. Hein, donc l'empire, il n'a plus que 3 pattes maintenant. Mais...
On va en parler. Tu me disais tout à l'heure que c'était important de laisser la famille au centre de vos préoccupations, malgré l'aspect business, etc. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, en fait, notamment par rapport à la création de vos boîtes, c'est ça?
La création de nos boîtes, la création de notre boîte ensemble, elle a été faite vraiment pour garder notre liberté. On avait l'impression, avec l'emploi d'employé de Guillaume, de plus maîtriser notre temps, de plus maîtriser les congés. Guillaume pouvait pas forcément prendre une journée, un enfant malade. Il faut garder un enfant. Moi, j'avais mon entreprise entre temps. Donc le fait de devenir entrepreneurs tous les deux, on l'a fait pour la famille parce qu'on était au bout du monde sans support familial, donc sans grands-parents pour nous aider ou tonton, tata. Ça a été vraiment la raison pour laquelle on a décidé de devenir entrepreneur.
Tu as la sensation que le fait de ne pas avoir la famille, ça a changé autour de vous, justement, ça a changé fondamentalement votre approche vis-à-vis de vos mômes?
Je crois qu'on n'a pas eu le choix de les éduquer juste Guillaume et moi, point barre. Toutes les décisions, tout ce qui s'est créé autour des enfants était basé sur nous deux. Il y a les grands-parents ou Guillaume est fils unique, mais moi j'ai une sœur, donc ils ont une tata. Les grands-parents ou la tata n'a jamais mis le pied dans l'éducation de nos enfants parce que il n'y avait pas la place avec la distance. Alors on a gardé des relations familiales, mais à distance, en arrivant en France une fois par an. Donc on était seuls, ouais.
Et j'imagine qu'il y a une forme de solitude, effectivement, de « ok, donc en fait on n'a pas forcément d'aide », mais potentiellement aussi une forme de liberté, c'est-à-dire que t'as pas ta daronne qui vient te dire « c'est comme ça qu'il faudrait faire », quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment l'état d'esprit de...
J'espère que ma mère n'écoutera pas ce podcast.
Coucou.
Mais c'est certain que quand on compare notre mode d'éducation par rapport à ma sœur ou par rapport aux copains, c'est sûr que la place des grands-parents n'a jamais... On n'a pas eu le mauvais côté de la place des grands-parents, en fait. Et du coup, c'est hyper dur à accepter parce que voyant les grands-parents qu'une fois dans l'année, qu'en France, quand on vient ou quand eux rendaient visite là-bas, on n'a jamais trop accepté, on n'a jamais été très ouvert à la critique parce que on a fait sans.
Pourquoi tu dis que c'est dur à accepter? Pour eux, de leur côté?
Pour eux, de leur côté. Okay. Parce que dans leur rôle de grands-parents, autant nous, on a été seuls au bout du monde pour devenir parents, autant ça m'a mis plusieurs années, mais je comprends aujourd'hui que pour les grands-parents, ça n'a pas été simple non plus de devenir grands-parents de ces deux bouts de chou qui vivent à l'autre bout du monde. Bon, là, ça fait 6 mois qu'on est en France et on est très heureux de voir que on a réussi à créer de toute façon ces 10 dernières années une vraie relation. Ils savent qu'ils sont leurs grands-parents, ils ont un vrai amour, un vrai échange, parce que les enfants parlent français, c'est un point important, parce que beaucoup d'enfants expatriés, des fois, il y a un problème de langue avec les grands-parents. Donc, on a réussi à créer ce lien, mais c'est un lien spécial et c'est un lien unique. Et ça, pour nous, il était évident parce que c'est nous qui l'avons choisi. Je pense que pour les parents, ça a mis des années à accepter ce côté un peu différent dans leur rôle de grands-parents.
Oui, vis-à-vis de leurs autres petits-enfants qui étaient plus proches d'eux, j'imagine.
Ou de leurs amis qui ont des petits-enfants tous les mercredis et tous les dimanches midi.
C'est sûr que ça doit changer. Parlons Covid. Donc Guillaume racontait que vous aviez décidé de post-Covid de tout bazarder, votre vie en gros, et de mettre ce qui restait de votre vie dans un garde-meuble, votre chien, vos enfants, et puis tout le monde dans une caravane, une petite caravane et une voiture.
Ouais.
Et hop, c'est parti.
Et hop, c'est parti. Ouais.
Comment j'aimerais bien avoir ta version à toi de l'histoire de ce que de cette histoire quoi globalement.
Alors, quand Covid arrive. Début 2020, ça fait 4 ans qu'on est entrepreneurs tous les deux et qu'on a. Ça fait 4 ans qu'on court après la réussite, le succès, l'argent et qu'on l'obtient. Je pense que début 2020, on est au summum de notre réussite. On est à la tête de plusieurs entités en Australie, dont une start-up qui cartonne en Australie. On vient de gagner un award pour. Sustainability pour développement durable.
Oui.
On vient de gagner un award fin 2019 pour développement durable. On travaille en main dans la main avec le gouvernement. Donc on est vraiment début 2020 au summum de ce qu'on a pu réussir professionnellement.
Toujours dans une petite boîte où vous êtes que tous les deux.
Alors la start-up est un peu plus grosse. La start-up a des employés, des investisseurs, des bureaux en ville. Donc on a vraiment réussi à développer quelque chose comme on imaginait la réussite professionnelle. Et on en est très fiers. Et on est vraiment, ouais, je pense qu'on est au top du top de là où on peut être.
Et toujours en couple.
Toujours tous les deux. Ouais.
Okay.
Et à se compléter énormément, à vraiment beaucoup s'écouter, garder la famille au centre. Alors c'est un petit peu moins simple parce que du coup on travaille énormément. Mais on s'organise. Guillaume part très tôt le matin au bureau et moi je m'occupe des enfants en matinée. Et puis après je rejoins Guillaume au bureau et Guillaume rentre dans l'après-midi récupérer les enfants à l'école pour faire les activités, les emmener au foot ou tout ça. Et moi je fais la partie soirée du côté sociable d'une start-up qui doit être de toutes les fêtes et être partout. Donc voilà, Guillaume commence très très tôt le matin avec les réunions au petit-déj et moi je finis avec les soirées. Mais vu qu'on se voit la journée et que moi j'ai mes moments avec les enfants le matin, lui avec les enfants l'après-midi, et que si un jour on n'a pas envie de travailler parce qu'on a envie de se concentrer sur les enfants ou juste de travailler à la maison, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est un rythme qui nous convient, mais c'est un rythme qui est épuisant, vraiment épuisant. On s'en rend pas encore compte, sauf que la pandémie arrive et qu'on se retrouve plus d'école, plus de boulot, en confinement à la maison, et là... La pression, elle retombe et on passe 10 semaines en confinement. Et ce qui aurait pu être la frayeur de beaucoup d'entrepreneurs pour nous, parce que les business ne tournaient plus du jour au lendemain en février-mars 2020. Et on a vécu ces 10 semaines de confinement, mais comme un long moment de tranquillité et à vraiment profiter du temps en famille. Alors du temps en couple, on en avait, mais pas du temps de qualité comme ça. Ça faisait des mois à cette époque que Guillaume me disait « Attention, on n'est plus un couple, on est des collègues parce qu'on s'entendait très très bien au travail, mais voilà, il n'y avait que le boulot et les enfants qui comptaient. » Et là, le confinement, ça a été une révélation. Cette vie au ralenti, profiter du temps à la maison, les mains dans la terre, à faire un potager, enfin comme beaucoup. Et au milieu, fin du confinement, on se regarde et on se dit on peut pas revenir à notre vie d'avant. Parce que j'ai l'impression qu'on a mis 35 ans à se trouver et là on y est. On a trouvé un truc qui nous plaît. Et en fait, c'est pas de bosser et d'être les rois du monde. C'est de passer du temps en famille et d'avoir un vrai temps de qualité et de prendre le temps.
Donc vous bazardez tout. Adieu. Vous fermez tout.
Voilà, quasiment. Les business mettent vraiment du temps à redémarrer. Quand, à la fin du confinement, on achète une vieille caravane pour la fête des mères, pour rénover et s'occuper les mains. On a vraiment besoin d'un projet de rénovation manuelle. Donc, on achète cette caravane pour s'occuper, la rénover, pour partir en vacances en week-end.
Ah ouais.
C'était le projet du confinement qui est arrivé un jour en détour d'une soirée.
C'est quand même une caravane, c'est pas anodin, quoi. Mais bon.
En fait, on cherchait un van. Dans l'idée, on cherchait un van depuis un an ou deux parce qu'on avait fait plusieurs vacances en Australie où on louait des vannes et on trouvait pas de vannes à acheter Et un jour, au détour d'une soirée, tous les deux, pendant le confinement, Guillaume, il me dit, pourquoi on s'en kikine avec un van? Je suis pas mécano pour un sou, on va acheter un vieux véhicule. S'il y a un problème moteur, je sais pas y faire. Je préférerais garder une vraie bonne voiture. Et on a qu'à acheter une vieille caravane, à la rigueur. Et on a cherché les vieilles caravanes, on est tombé sur cette caravane. On a été la voir, on l'a achetée, on l'a ramenée, point. Voilà. Comment la vieille caravane, elle est arrivée chez nous.
L'histoire de la vieille caravane.
Ouais. Et puis, donc, confinement, on décide de changer de vie. Et pour le changer de vie, on prend la décision de tout vendre, de quitter notre grande maison de rêve australien. Parce que pendant le confinement, on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas besoin de si grand, qu'on vivait vraiment dans...
une maison de 300 mètres carrés, c'est ça,
ouais. On vivait dans à peine un tiers quand on a les enfants partageaient une chambre, nous, notre chambre, la cuisine. Et puis voilà, c'est
quand
fini.
Quand tu dis un tiers, t'es large en plus, hein.
Donc, on décide de... Le premier projet, il est immobilier. On décide d'acheter un terrain et de faire construire une maison, une toute petite, une tiny home, en autonomie. Voilà, c'est le projet d'être en autonomie sur la maison, en énergie, d'en faire à des potagers. Sauf que, courant 2020, on a deux projets immobiliers qui se cassent la figure pour différentes raisons et qui se font pas. Sauf que nous, on a tout bazardé, on a tout rendu, on n'a plus la maison. Et on arrive à octobre 2020 avec cette date du 11 novembre. Au 11 novembre, on doit déménager de la maison et on n'a toujours pas de nouvelle maison. Et là, on le prend très à la cool, je me souviens. Et je dis à Guillaume, écoute, tu as 5 semaines pour... la caravane, finir les travaux de la caravane, parce que je pense que ça va devenir notre nouvelle maison de transition, parce que dans tous les cas, on n'a pas le choix, il faut déménager.
C'est donc, toi qui as cette intuition.
Oui, je lui dis, finis la caravane était en cours de rénovation, je lui dis, finis cette caravane, parce que ça va nous sauver pour la transition. On met tous les meubles en garde-meubles, on finit la caravane, et on prend la route avec la caravane, en se disant, allez, on part quelques semaines, on prend le temps, on prend des longues vacances. Les enfants étaient déscolarisés depuis le confinement, ils n'étaient jamais retournés à l'école, donc on avait vraiment cette liberté. La start-up avait quasiment coulé à l'époque, on n'avait plus d'employés, on n'avait plus de bureau, on n'avait plus tout ça, donc il n'y avait plus que nous, les enfants à la maison et la caravane. Donc on a tout quitté et le 11 novembre, nous voilà partis pour quelques semaines avec la caravane.
Un an et demi plus tard, MDR. Un an et demi, mais non.
Ouais, c'est ça fait un an et demi, ouais.
Waouh. Ok. Comment, avec le recul, tu regardes cette histoire?
Eh ben, comme le départ en Australie, comme la grossesse en Australie, heureusement qu'on n'a pas réfléchi. C'est vraiment, les choses sont arrivées comme ça. On est d'une nature assez fonceur avec Guillaume. Quand il y a une idée qui nous traverse l'esprit, on y va. Le truc nous plaît. On sait que ça sera fun et que si au pire ça marche pas, bah on rebondira. Et heureusement qu'on n'a pas trop réfléchi. Je pense qu'aujourd'hui on rencontre beaucoup de familles nomades ou des familles qui aimeraient être nomades et qui se prennent 6 mois, un an et demi d'organisation, de planification pour préparer un départ, alors que nous on l'a jamais préparé notre départ, on ne l'y a jamais pensé, on est parti pour quelques semaines. Et je pense que si on avait pris le recul de préparer, on serait jamais parti avec cette vieille caravane, on aurait je pense mis beaucoup d'argent dans une grosse caravane neuve avec plus de confort, et puis peut-être qu'on serait pas parti, parce que si tu commences à te poser les questions de ce qui va t'arriver, bah voilà, peut-être qu'on serait pas parti. Donc voilà, comme le reste, on n'y a pas beaucoup réfléchi.
Comment t'as la sensation que pendant cette année et demie, t'as réussi à, je sais pas, à faire évoluer justement ton rôle de mère, que tu disais tout à l'heure que c'était le rôle de ta vie, etc. T'as la sensation que ça a accentué justement cette idée que c'était vraiment le truc de ta life avec le recul?
Complètement. Ouais. Depuis le confinement, depuis ce temps passé en famille, de les observer grandir et d'être avec eux tous les jours et de plus compter le nombre d'heures qu'ils passaient à l'école ou en périscolaire par rapport au temps avec nous, ça a été une révélation. L'école à la maison, ça a été une révélation pour nous, mais aussi pour Adam qui souffrait d'anxiété. Alors, l'école en Australie, l'école publique, elle est elle est pourtant ultra bienveillante et très basée autour de l'enfant et des besoins de l'enfant, mais bah voilà, comme dans une classe de 20, vaut mieux être dans la moyenne, et Adam qui avait de l'avance et qui était peut-être au-dessus de la moyenne, ça devenait compliqué d'aller à l'école, il voulait plus aller à l'école, il s'ennuyait à l'école, et on n'avait pas encore trouvé de réponse à ça ou de solution. On était juste au début, alors que l'école à la maison, bah, l'anxiété est partie, sa nervosité est partie, et on a retrouvé à l'époque un petit garçon de 8 ans complètement sain, serein et bien dans ses baskets. Donc tout ça mis bout à bout, bah, c'est une révélation. Donc du coup, cette vie en caravane qui à la base est pour quelques semaines de vacances, puis au bout de quelques semaines, on se dit « Non, on n'a pas envie de rentrer. Là, rentrer, acheter un terrain, construire une maison, bon non, pas tout de suite. Allez, on part 3 mois, on verra. » Puis les 3 mois se transforment en 6, et les 6 en 12, et puis au bout de 12, bah, t'arrêtes de compter.
C'est tout.
Ouais,
c'est aussi simple que ça.
Bah, ouais, c'est... Aujourd'hui, la vie qu'on mène, on dit toujours, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas combien de temps le voyage y durera. En tout cas, aujourd'hui, il nous rend heureux, tous les quatre. Et vraiment tous les quatre, parce que je pense que de manière assez sincère, tout étant basé sur la communication dans la famille, on parle tous les quatre et on demande souvent l'avis aux enfants, et s'ils sont d'accord, et ce qu'ils veulent faire, et ce qu'ils aimeraient. Adam, potentiellement, il rentre au collège là en janvier de, oui. 2023. Donc on a déjà abordé le sujet avec Adam.
Ouais.
Est-ce que tu veux rentrer dans une vie sédentaire? Est-ce que tu vas aller au collège? Non, moi j'ai envie de rester comme ça. Ok, bon, on va trouver des solutions.
Il ne veut pas aller au collège.
Non. Non, il est heureux comme ça. Donc aujourd'hui, on est vraiment au jour le jour. On a acquis dans cette recherche de soi-même et se repositionner soi au centre de notre intérêt. Donc moi, mon intérêt, c'est moi, et Guillaume, ça va être lui, et vraiment de se repositionner au centre de notre vie. On n'a jamais été autant en adéquation avec nos valeurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit une vie très simple, hyper minimaliste, complètement dans la déconsommation, mais c'est une vie qui est riche en épanouissement, qui est riche en aventure, qui est riche en moments en famille. Et du coup, on n'a jamais été aussi certain de notre mode de vie. Il évoluera certainement, mais il évoluera comme nous, on évoluera. Et en tout cas, aujourd'hui, on vit et on arrête de subir.
Comment t'as fait pour faire ce chemin, toi, personnellement? Ok, en fait, la Startup Nation, la réussite, la grande maison, etc., etc., à arriver à cette conclusion aujourd'hui qui est, bah, en vrai, on est dans une caravane, on est très bien, quoi.
Bah, les choses se sont faites progressivement et naturellement. C'est un choix. C'est pas quelque chose qu'on a subi. C'est pas comme si on avait fait faillite et que d'un seul coup on avait tout perdu. Ça aurait été certainement plus difficile à digérer. Là, les choses étant arrivées comme ça, ça a juste été évident qu'on a passé des années à cette course au succès, alors qu'en fait, on n'a pas besoin d'autant. Et on en parlait d'ailleurs pendant notre repas à midi, c'est que on nous éduque dans ce côté réussite scolaire, il faut avoir des diplômes, il faut avoir un bon boulot, il faut bien travailler et puis gagner beaucoup d'argent. Mais plus tu réussis, plus tu gagnes de l'argent, plus tu vas en dépenser, plus ton confort de vie évolue en fonction. Et du coup, bah, il faut que tu gagnes toujours plus pour répondre à ces dépenses mensuelles qui tombent. Et finalement, t'as beau énormément gagner ta vie, énormément travailler pour énormément gagner ta vie, il y a toujours un stress ambiant, parce que si demain ça se casse la figure, eh ben les quelques milliers d'euros ou de dollars que j'ai de charges par mois, il va falloir les payer. Alors que là, dans cette vie là qu'on a choisie et qui nous paraît aujourd'hui évidente, tout est redevenu à échelle ultra minimaliste. J'allais dire humaine, mais c'est vraiment, vraiment le minimal vital dont on a besoin. On sait, on est sorti de ce besoin de consommation, on n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin d'acheter, on n'a plus besoin de posséder. D'ailleurs, on a gardé, quand on est parti en 2020, on a gardé nos meubles en garde-meubles parce qu'on était censé partir que pour quelques semaines. Et au bout d'un an, qu'on a pris la décision de continuer de voyager, on est rentré à Brisbane. On a ouvert le garde-meuble qui était fermé depuis un an. Et parce que Guillaume m'avait posé la question quelques semaines avant de, au fait, ça nous coûte combien ce garde-meuble? Et j'avais sorti, on avait le garde-meuble plus des chevaux qu'on avait gardés en.
Des chevaux?
Ouais. Dans la maison d'avant, on avait une jument et un poney qu'on avait décidé de garder pour la prochaine maison. Et quand il m'a demandé le prix du haras et le prix du garde-meuble qu'on venait de payer à l'année, on s'est dit, mais c'est, je crois qu'on était à 15 000 $. Donc 15 000 $, on doit être à 9 000 euros sur l'année. Et là, on s'est dit, mais attends, c'est complètement ridicule. On est là à vivre dans une caravane de 1986 qui a des trous partout, qu'on est tout le temps en train de réparer ou de rafistoler, de 9 mètres carrés. On n'a plus rien, mais à côté de ça, on paye une fortune pour des objets que on va certainement plus jamais réutiliser.
De votre ancienne vie, quoi.
Donc on est rentré.
Ça a été dur de se séparer de ça ?
Pas du tout. Ouais. Je pense que ça aurait été plus dur un an avant. Parce que le choix, le tri de nos affaires pour rentrer dans le garde-meuble, ça a été déjà quelque chose. Pour rentrer juste dans, je crois que c'était 20 mètres cubes, 15 mètres cubes, quelque chose comme ça. Mais un an après, quand tu as vécu un an dans une caravane et que tu n'as pas eu besoin de tout ça, et que tu sais que de toute façon, c'est remplaçable, un canapé, une table, des chaises ou... Un an après, on a ouvert le garde-meuble et Guillaume et moi, on a quelques copains qui sont venus nous aider les premiers jours. Et sinon, en quelques week-ends, quatre week-ends, avec Guillaume, on avait vidé, vendu, donné, jeté et on n'avait plus rien. On a gardé quelques boîtes qui sont aujourd'hui chez un copain à Brisbane, quelques boîtes plastiques avec les albums photos, les souvenirs des enfants, enfin voilà, pour garder quand même des souvenirs. Mais on est reparti de Brisbane, donc c'était là, en octobre 2021, avec plus rien de matériel. Notre vie se résume à nous quatre, la voiture et la caravane.
Donc là, ça fait 6 mois que vous êtes rentré en France.
Ouais.
Vous repartez...
Le mois prochain.
Le mois prochain. Vous allez finir votre tour, c'est ça ?
Ouais.
De l'Australie.
On est arrivé en France un petit peu pour... J'ai perdu mon grand-père au mois de novembre. On était dans une situation pandémique où toutes les frontières étaient fermées. Surtout l'Australie, on ne pouvait pas à l'époque, fin 2021, c'était il y a 6 mois, on ne pouvait pas sortir et rentrer en Australie. On a dû demander une dérogation spéciale avec des papiers, des traductions et tout ça pour faire état du décès de mon grand-père et du besoin de rentrer en famille. Et on s'est fait accorder cette mesure exceptionnelle avec une condition sine qua non de « ok, mais il faut partir 3 mois ». J'imagine que c'est pour éviter le nombre de demandes de dérogation et qu'il y ait trop de gens qui essayent. Donc voilà, on est parti pour 3 mois. Quand on arrive à l'agence de voyage pour booker les billets d'avion, elle a rigolé parce qu'elle n'avait aucun billet retour, elle n'avait aucun avion retour qui atterrissait sur le pays avant avril. Et voilà, de fil en aiguille, on est là jusqu'au début juin.
Et là, vous avez un peu fait le tour de France,
c'est
ça ?
Oui, parce que quand on est arrivé en France pour retrouver évidemment la famille, ma grand-mère et tout ça, on s'est dit, mais attends, on est de Bourgogne. Alors, on adore la Bourgogne, on adore la Bourgogne aujourd'hui, qu'on vient de redécouvrir. Mais on s'est dit, un an de vie nomade en Australie en caravane, 6 mois sédentaire en Bourgogne, ça ne va pas être possible. Donc, on est arrivé avec cette idée courant
surtout en plein hiver.
Surtout en plein hiver. Donc, on a acheté un camping-car début décembre, et ce qui nous a permis d'entamer un tour de France de décembre à là, au mois d'avril, et de faire ça en famille. Et alors, on est super ravis de l'avoir fait en hiver parce que du coup, on a une expérience camping-car dans le Jura, en Savoie, en Suisse, à la neige. Les enfants ont skié pour la première fois. On a pu prendre le temps de faire un tour de France. Ça fait 10 ans qu'on est parti de France. Même si on rentre tous les ans en et demi, on rentre quelques semaines. Donc, il y a des gens, des cousins, des copains qu'on n'avait pas vus depuis des années. Là, on a vu quasiment tout le monde ces 6 derniers mois parce qu'en tour de France, on a été voir tout le monde. Et puis, on a redécouvert la France avec les enfants, par la culture, l'histoire.
Vous avez fait les châteaux.
On a fait les châteaux de la Loire, on a fait Carcassonne, enfin on a fait tout plein d'endroits symboliques et c'est une chouette expérience.
Et donc là, retour en Australie, et Zou
La voiture et la caravane nous attendent et on a tout l'ouest australien qu'on n'a pas fait encore.
Quelle est la suite alors ?
La suite, pour l'instant, elle est au jour le jour. On a toujours un business qui...
Me fais pas dire que t'es au jour le jour. Toi aussi, t'es du genre à te projeter un peu, non ?
Alors, je me projette dans le sens où j'ai plein de rêves et plein de projets. Depuis toujours. Depuis j'étais petite et j'ai retrouvé des enregistrements là chez mes parents et des carnets intimes de mon adolescence où je marquais donc petite sur les enregistrements micro et après à l'écrit à 15 ans que plus tard je vivrai à l'étranger, mes enfants seront bilingues et j'aurai une vie extraordinaire, quelque chose comme ça. Donc j'ai toujours eu ça dans ma tête de mener des rêves. Donc des rêves pour les 10, 20 prochaines années, les 30 prochaines années, j'en ai plein. Par contre, dans l'action, aujourd'hui, c'est au jour le jour. C'est vraiment prendre le temps de profiter de l'instant présent. Les enfants grandissent. On parlait de ça tout à l'heure des claques de vieillir. Et oui. Adam vient de fêter 10 ans. Et là, on a fêté ses 10 ans en France le mois dernier. Et j'ai pris une claque en disant, mais elles sont passées où les 10 années là? Je le vois encore naître et bébé. Alors, je sais, ça paraît bateau comme ça parce que beaucoup de mamans peuvent dire ça. Mais c'est vraiment, je veux profiter de ces années là. On me dit des fois, mais pourquoi vous voyagez avec des enfants? Ils s'en souviendront pas. Mais en fait, c'est maintenant qu'ils veulent voyager avec moi. C'est pas quand ils auront 15 ans, 16 ans. J'ai pas envie de leur couper leur adolescence, leur premier flirt ou les premières conneries sans papa, sans maman. Donc, c'est vraiment maintenant qu'on veut profiter d'eux. Et voilà. Du coup, de quoi est fait la vie? Eh ben, pour l'instant, on voyage. Le projet, c'est de finir le tour d'Australie, de trouver une solution d'éducation à distance pour le collège d'Adam l'année prochaine. Et puis après, il y a plein de pays à visiter. Donc, pourquoi pas continuer tant qu'on peut.
Merci beaucoup, Elodie. Tu sais, j'ai une dernière question que j'aimerais bien te poser. C'est si tes fistons, ils écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ?
Que leur vie, elle est entre leurs mains à eux et qu'il ne faut pas attendre des autres et même pas de nous, leurs parents, pour réaliser leurs rêves. Que j'espère qu'on les aura éduqués avec des rêves plein la tête et que dans 10 ans, ils auront 17 et 20 ans, j'espère qu'ils auront leurs propres rêves et je leur dirai de croire en leurs rêves et que l'action, elle est de leur côté, elle est de leur côté à eux, que tout est possible tant qu'on le veut et voilà, j'espère qu'on leur aura juste inculqué les bonnes valeurs et les bonnes bases pour réussir dans ce monde de fous.
Comment tu te projettes dans ta vie d'après les enfants? Tu sais, parce que tu me disais, moi, c'est un truc qui m'a permis de me réaliser en tant que maman, etc. Je me demandais aussi, tu vois, une fois que tes enfants, ils seront grands, ils seront autonomes, comme tu disais, et à un moment donné, ils vont vouloir se barrer et puis être avec leur daron. Mm-hmm. Tu l'aperçois comment? Tu l'envisages comment, cette vie-là?
On en a déjà beaucoup parlé avec Guillaume, et je pense qu'il y a deux phases. Je me vois comme moi m'épanouir personnellement dans des projets que aujourd'hui je peux pas forcément réaliser avec des enfants en bas âge. Et
comme quoi, par exemple?
Eh ben, faire de l'humanitaire. J'ai toujours eu cette volonté de faire de l'humanitaire sur de longue durée dans des pays vraiment très 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 pauvre, et on s'était renseigné il y a quelques années, mais en famille c'est vraiment compliqué. Ouais. C'est vraiment compliqué, donc peut-être m'épanouir dans des projets comme ça, donner du temps aux autres tout en m'épanouissant moi-même, parce que je le fais là ces dernières années, le fait de partager tout notre style, notre mode de vie sur les réseaux, on est vraiment dans l'échange et dans la discussion, et je dis souvent que d'aider les autres à se trouver, ça m'aide toujours moi à grandir. Donc je me vois comme ça, vraiment continuer à approfondir ça, mais dans des situations où avec les enfants aujourd'hui c'est compliqué. Et puis il y a le couple. Je pense que on a vraiment cette phase de couple. J'espère que dans 20 ans on sera toujours ensemble et on pourra toujours partager ça tous les deux.
Mais, je vous le souhaite.
Mais on a vraiment. On a des superbes souvenirs de notre vie de couple avant les enfants. Là, on est en train de se construire en tant que parents, donc c'est pas facile tous les jours, mais avec la communication, on essaye de trouver vraiment notre balance et de pas se perdre dans tout ça. Donc je pense que la vie après les enfants, elle arrive aussi avec une deuxième vie de couple qui sera, j'espère, toujours sur la même longueur d'onde et à partager des projets en commun.
Je vous l'espère en tout cas. est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas aimé, dont tu aurais aimé causer?
Non, je crois qu'on a abordé vraiment le temps pour soi et vraiment se connaître soi-même, vraiment le sujet qui me tient à cœur en ce moment à travers les différentes casquettes. Le temps de prendre le temps, donc là avec notre vie nomade, on l'aborde complètement au quotidien. Ne pas avoir peur des compromis, ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de certaines difficultés, parce que c'est inévitable. Les gens ont l'impression des fois d'avoir des rêves plein la tête et puis de pas y aller parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des obstacles. Mais dans tous les cas, il y en aura toujours. Donc je pense qu'il faut plus se dire, go, on y va malgré les obstacles. Mais Non, voilà, je pense qu'on a abordé tous les sujets qui me tiennent à cœur en ce moment.
Merci Elodie. On peut suivre votre vie sur Instagram, hein. Je vous mettrai le lien dans les notes, hein, de cet épisode, tout simplement. Voilà, bonne vie à vous. Hein.
Bah merci. Merci de m'avoir reçu. C'était super sympa de faire ce podcast en direct, en face à face.
C'est vrai, en face à face.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.